Que le nom du Seigneur soit loué pour la grâce et le privilège que nous avons aujourd'hui d'être de nouveau ici réunis pour adorer, pour être bénis d'une manière nouvelle, pour ensemble avoir communion avec Dieu et les uns avec les autres. Pour nous tous, c'est un grand privilège. Nous ne venons pas ici pour rencontrer, pour voir une grande star. Nous ne venons même pas ici pour expérimenter, pour voir à l'œuvre un grand don. Par exemple, tel que c'était le cas dans le ministère du frère Branham, beaucoup de personnes venaient à cause du don que Dieu, dans sa souveraineté, avait accordé et pouvait utiliser de manière puissante. Ici, nous avons la chose la plus importante. Dieu lui-même et sa parole, lui, le donneur de tout don qui sont bons, nous sommes reconnaissants pour tous les ministères qu'il a accordés et bien sûr aussi très particulièrement reconnaissant pour le ministère de frère Branham. Parce que sans son ministère, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et le don était nécessaire pour attirer l'attention de l'humanité sur le message qu'il avait à apporter pour que ce message soit écouté. Pour que ce qui est apporté soit écouté. Nous vous souhaitons de tout notre cœur la bienvenue à tous, de loin et de près, de l'Est et de l'Ouest, du milieu et du centre de l'Europe. Tous les pays voisins sont ici représentés, même la Finlande. Nous nous réjouissons. Le frère Wallström de la Danemark, nos frères et sœurs de la Tchèque, de la Pologne, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Autriche. Oui, qui serait encore ici? Du Congo, du Zaïre, de partout. Que Dieu puisse nous bénir tous et être avec nous tous. Le frère Graf est aussi ici. Tous nos frères sont ici. Nous avons aussi des salutations à remettre de notre bien-aimé frère Genton, qui fait un travail particulier en Italie, qui a fait un travail particulier en Italie depuis plusieurs années, et que le Seigneur puisse le bénir d'une manière particulière. Il remet sa salutation à l'Église avec le psaume 98 au verset 2. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Et arrivent alors tous les souhaits de bénédiction qu'il nous adresse. Le frère Barillier aussi remet les salutations. Beaucoup de frères et de sœurs des différents pays remettent leurs salutations. Nous sommes liés avec le Seigneur et les uns avec les autres. Je vois aussi le sud de la Tyrol qui est représenté ici. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères, nous allons aujourd'hui donner un court compte-rendu de ce que Dieu a fait dans l'année passée. Pour nous, c'est comme une réunion de fin d'année que nous avons aujourd'hui. Ça a été une année comme aucune autre, avec beaucoup de voyages, avec beaucoup de nouvelles relations, que ce soit à l'est de l'Europe, que ce soit au sud-est de l'Asie. Nous avons pu inclure plusieurs autres pays, et Dieu, partout, a vraiment accordé sa grâce. À l'est de l'Europe, la Bulgarie s'est ajoutée, où nous étions là-bas pour la première fois. Et nous devons vraiment dire que Dieu a, d'une manière merveilleuse, ouvert les portes. Nous sommes reconnaissants pour tout le travail de traduction, pour tout ce qui est fait pour que le message divin soit porté et qu'il atteigne le monde entier. Vous tous qui, d'une manière fidèle, soutenez l'œuvre de Dieu, je voudrais ici vous exprimer notre reconnaissance à cet endroit. Nous avons, depuis des années, année par année, sorti plus de 1 million par année pour que la parole du Seigneur soit apportée dans le monde entier. Et nous n'avons pas encore tout dépensé. Le Seigneur prend soin d'une manière merveilleuse. Mon cœur est rempli d'une reconnaissance profonde. Et je crois que pour l'honneur du Seigneur, nous avons la grâce de dire qu'une telle œuvre missionnaire n'a jamais existé ici, sur cette terre. Nous n'avons pas ici de carte de paiement, pas de reçu. Tout est envoyé gratuitement dans 134 pays. Et Dieu prend soin pour tout. Quand nous achetons des cassettes, à chaque fois, ce sont 10 000 cassettes que nous achetons à chaque fois. 10 000 cassettes en une seule fois. Et elles suffisent pour à peu près 6 mois. Et après arrive le prochain envoi et nous sommes alors obligés d'acheter encore les prochaines 10 000 cassettes. Et quand nous pensons ici aussi aux cassettes vidéo, en général à tout l'envoi, si nous voulions ajouter tout cela, c'est alors un grand volume qu'on peut laisser voir et entendre. J'ai, avec le Seigneur, en avril 1966, fait comme un vœu, comme un contrat. Je lui ai dit que je me tiens à sa disposition et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le servir, mais qu'il puisse prendre soin pour une chose, c'est-à-dire que tout soit payé au temps convenable. J'ai dit au Seigneur, vraiment mot à mot, jamais je vais mendier pour de l'argent, que tu puisses toi-même prendre soin pour l'œuvre dans laquelle tu m'as placé. Et c'est ainsi que je vous remercie de ce que vous avez exercé la fidélité et que vous avez donné et que vous donnez au Seigneur ce qui lui appartient. Et c'est ainsi que l'œuvre peut être portée dans le monde entier. Quand nous allons à l'est de l'Europe ou bien quelque part en Asie ou bien en Afrique, ce n'est pas alors pour récolter là-bas une collecte, mais c'est pour simplement apporter la parole de Dieu et pour soutenir là où il y a des besoins tant que nous le pouvons. La fin de l'année 97 était richement bénie. Après plusieurs années, le frère Perry Green de Tucson, Arizona, m'a invité pour avoir part à la conférence de la fin de l'année. Et là-bas, j'ai reçu la possibilité, le dimanche matin, ça fait 14 jours d'ici, j'ai reçu la possibilité d'apporter la parole de Dieu dimanche matin et j'ai revu plusieurs des temps passés et des nouveaux amis. Et des portes se sont ouvertes. Et il me disait, frère Frank, si tu le veux, cela serait aussi mon désir. Si tu es prêt, alors que cela ait lieu, que nous puissions ensemble faire un voyage par l'Amérique et le Canada, pour que tu puisses prêcher la parole de Dieu. Il pouvait rendre compte et parler de ce que Dieu avait fait dans le ministère de Frère Branham, et je pouvais parler de ce que Dieu a fait après le retour à la maison de Frère Branham. Et c'est ainsi que sûrement nous allons nous complémenter, nous compléter. Et si vous êtes tous d'accord, je vais inviter le frère Peregrine. Je l'ai même déjà fait. Je devrais même déjà peut-être le dire. Vous savez que quand on est invité, alors cela va de soi que, en retour, on invite aussi celui qui a invité. En général, je peux seulement dire que Dieu est fidèle, il se tient sur sa parole. Nous avons la grâce de reconnaître qu'il conduit ses saints d'une manière merveilleuse et qu'il appelle les derniers à sortir. Il sait où est-ce qu'ils se trouvent. À Tucson, j'ai rencontré un homme qui m'a offert ce livre, un homme originaire de la Slovaquie. Mais durant plusieurs années, auprès du président, déjà du temps de Bodyguard à Prague, auprès de Svoboda, auprès de Husak, et aussi après plus tard, auprès de Dobšek, un homme qui avait accès au gouvernement, il m'avait entendu parler à Tucson. Il est venu alors à moi et m'a dit, frère Frank, s'il te plaît, que tu puisses venir dans ma maison, parce que en 1968, alors que le rideau de fer était encore fermé, tu étais venu à nous et tu nous as apporté le message de Dieu. Que tu puisses m'accorder ce privilège de te préparer un repas et de t'inviter dans ma maison. Et alors que j'étais chez lui, les larmes lui ont coulé. Il est venu avec de vieilles lettres circulaires que notre frère Siegfried Fleck avait déjà à l'époque, au commencement, traduit en langue tchèque, donc de l'allemand en langue tchèque. Et il s'est réjoui. Il est allé, il s'est agenouillé avec un genou. Et il m'a dit, frère Frank, depuis le commencement, j'ai cru ce que tu as prêché de la parole de Dieu. Et il me disait que, alors que, après j'étais allé en Pologne, il a suivi et il est allé prendre part aux réunions là-bas et il m'a demandé ce que je me rappelle de cette expérience et de cette expérience. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il m'a offert ce livre dans lequel tout un nombre de pages ont été dédiées à frère Branham. Ici, c'est quelqu'un qui a écrit un travail de doctorat et il a parlé des différents réveils, des mouvements de réveil. Et il y a aussi 46 pages sur William Branham. Les premières pages, ou bien la première partie est bien, mais la deuxième partie est vraiment négative. Les hommes ont écouté la vérité à moitié et ils l'ont mal comprise. Et bien sûr, ils n'ont pas lu la Bible pour s'assurer, pour se convaincre de la véracité des choses. Mais ce qui m'a réjoui d'une manière particulière est qu'il est écrit ici, je le dis ici, dans la présence d'un grand nombre de frères et de sœurs qui viennent du Zaïre, de la République actuelle du Congo. Et dans ce livre, à partir de la page 341, il est écrit « Les croyants du message qui suivent Branham c'est ainsi qu'ils l'ont écrit, sont un mouvement dans le monde entier et ils sont en plus grand nombre dans la nation, le Zaïre, et ils sont la communauté, la quatrième communauté la plus grande. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quelque chose. Et nos frères sont ici. Le frère Albert est venu à moi dans le bureau et il me disait, frère Franck, il y a 12 ans d'ici, alors que tu avais parlé à la télévision à Kinshasa, je t'ai entendu, j'étais à l'époque un croyant et je suis devenu croyant. Où est le frère Albert? Quelque part, le voilà, frère Albert, que Dieu te bénisse. Et c'est ainsi que nous nous réjouissons. Je crois que nous avons surpassé les 3 millions en ce qui concerne le nombre de ceux qui ont été baptisés bibliquement et qui croient le message et qui marchent sur les traces, dans les traces du Seigneur. Parfois, nous nous regardons ici en Europe, nous regardons autour de nous et nous nous posons peut-être la question, pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Dieu sait où ils sont. Il sait qui croit, qui le croira de tout son cœur. Et quand nous regardons dans l'histoire, il y a eu toujours de nouveau des réveils. Des continents ont été visités. Et frère Branham voulait aller en Europe. Son cœur brûlait pour l'Afrique. Et alors qu'à l'époque, il était venu à Zurich, en Suisse, Dieu lui a donné une vision. Et il a vu l'aigle allemand survoler l'Afrique. Et c'est ainsi que nous avons vu qu'aujourd'hui, nous avons, par l'avion, la possibilité de survoler le monde, donc survoler la terre, et d'apporter ainsi la parole merveilleuse de Dieu. Comme cela a été déjà dit, nous aurions beaucoup de choses qui pourraient être mentionnées et dites. Et nous sommes aussi très reconnaissants au Seigneur de ce que dans cette génération, il nous a placés dans cette génération et de ce que il a ouvert nos cœurs, il nous a donné la compréhension pour ce qu'il fait dans sa grâce. Imaginez-vous combien de millions lisent la Bible. Pensez à cela, combien s'efforce à servir le Seigneur et à suivre le Seigneur et vivre malgré cela dans les ténèbres parce que ils n'ont pas reçu la lumière de la parole prophétique. Et nous avons souvent répété et dit que quand Dieu accorde la lumière, alors on n'a pas le droit de marcher contre cette lumière. On doit marcher avec la lumière et ainsi marcher dans la lumière. Et c'est seulement comme ça que la parole de Dieu devient une lampe à nos pieds et une lumière, une réelle lumière sur notre sentier. Et alors, nous pouvons dire que dans ta lumière, nous voyons la lumière. Nous venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons du Sud et du Nord. Je le dis encore une fois, nous ne venons pas pour voir un don particulier. Nous ne venons pas pour voir un charismatique qui ôte sa veste et qui la tourne comme ça et qui joue un peu du théâtre sur la plateforme. Nous venons ici pour avoir une rencontre réelle avec Dieu. Nous venons ici pour entendre sa parole. Nous venons ici pour nous laisser corriger et pour nous laisser préparer. En cet endroit, nous ne nous plaçons pas au-dessus de la parole de Dieu, mais sous la parole de Dieu, nous la laissons dans toute sa valeur et dans tout ce qu'il a dit, dans la forme avec laquelle il a prononcé, parce que nous savons que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole demeure éternellement. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour la mener à son accomplissement, et tel que il a accordé le message divin et que il a repris son prophète. C'est comme ça qu'on a repris son prophète à lui. C'est comme ça que nous avons la grâce de porter ce message divin sans mélange, le porter sans mélange. Et cela dans le monde entier. C'est un grand privilège que le Seigneur nous a accordé. En ce qui concerne cette pensée que nous sommes passés d'une année à une autre, des pensées me sont venues et quelques versets et des versets bibliques me sont venus sur lesquels j'ai pensé. Et ce serait bien si nous pouvions dire que nous sommes aussi passés de la vieille vie à la nouvelle vie. Dans la nouvelle vie, ce serait aussi bien si nous pouvions voir comment est-ce que l'ancienne alliance avait sa signification, mais comment est-ce que la nouvelle alliance est venue et que nous avons été introduits et placés, transportés dans la nouvelle alliance. Je voudrais, en ce qui concerne ces pensées et en ce qui concerne le repas du Seigneur que nous allons ensemble ce soir fêter avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et peut-être, ici, tout de suite, dès le commencement, pour dire ceci, nous croyons aussi, en ce qui concerne ce que le Seigneur a dit dans Jean 13, et a fait dans Jean 13, alors qu'il avait lavé les pieds à ses disciples, et il disait, ce que je vous ai fait, vous devez aussi le faire les uns entre les autres. Pierre avait refusé. Il ne voulait pas que le Seigneur lui lave les pieds. Et après, il a permis que cela se fasse. Je l'ai vu dans les réunions de Frère Branham de son vivant. Et c'est ainsi que cela était pratiqué dans l'Église primitive, parce que Paul l'écrit dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 9 et 10, à Timothée, qu'une vœu pour être inscrit sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari. Et au verset 10, à la fin, il dit qu'elle ait lavé les pieds des saints. Il y a parfois quelques petits points comme ça qui nous donnent de la lumière sur une vérité biblique. Mais pour les véritables, ces petits points-là suffisent pour ne pas chercher d'excuses, pour ne pas les mettre en pratique. Mais c'est en cela une confirmation qu'ils trouvent pour justement le mettre en pratique. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants, nous nous réjouissons de ce que dans la simplicité, nous avons la grâce d'observer la parole de Dieu. Et que cela aussi trouve son mention ici, si quelqu'un n'est pas convaincu de cette pratique, qu'il se sente libre. Sentez-vous libre, vous savez, en cet endroit, aucun homme est obligé de faire quoi que ce soit. Attendez, en ce qui concerne cela, jusqu'à que Dieu vous ait éclairci sur ces choses, pour que vous puissiez, de tout votre cœur, dans la foi, le faire. C'est ainsi, vous savez, dans le royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui convainc et conduit par la parole et par son esprit dans toute la vérité. C'est lui qui convainc, c'est lui qui touche les cœurs. Ce n'est pas le prédicateur ou bien les anciens, mais c'est lui qui le fait par sa parole et par son esprit. Nous voulons ensemble lire quelques versets bibliques et aujourd'hui, nous voulons, s'il vous plaît, ne pas regarder nos montres. C'est la première réunion de cette sorte pour cette année. Et nous voulons vraiment laisser la parole de Dieu parler à notre cœur et dans la foi lui demander qu'il puisse nous bénir. Dans l'évangile de Matthieu, déjà maintenant, nous voulons lire ce verset biblique dans Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 26. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, et maintenant arrive le verset où vraiment on devrait mettre l'accent. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Vous savez que quand on lit plusieurs traductions, on constate ici et là des petites choses, mais qui pourraient avoir une grande signification. Imaginez-vous si ici, au verset 28, il serait écrit, au lieu de « car ceci est mon sang », s'il était écrit « car c'est mon sang ». Car c'est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Dans la coupe n'était pas le sang de l'agneau de Dieu. Dans la coupe, il y avait du vin en tant que le produit de la vigne. Et les gens ont mal compris cela et disent « cela est son sang ». Non, avec son sang, il est entré dans le sanctuaire céleste et il a apporté là-bas sur le trône de la grâce. Ce sang pour là-bas au ciel, devant la face de Dieu, rendre infiniment parfait l'œuvre de la rédemption accomplie sur la terre. Vous pouvez le lire dans Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux. Le repas du Seigneur, nous le fêtons en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix du calvaire à Golgotha, tel que c'est une réalité quand nous prenons le pain et le vin lors du repas. C'est ainsi que c'est une réalité que notre Seigneur a laissé meurtrir et frapper son corps. Et c'est ainsi que c'est une réalité qu'il a laissé son sang couler pour notre rédemption et pour notre réconciliation. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, de ce que nous avons été ramenés à Dieu et que cela est devenu possible que d'enfants d'hommes, ils soient faits des enfants de Dieu et que nous naissions de Dieu d'en haut par la parole et par l'Esprit de Dieu. Ce qui me touche vraiment le cœur, c'est le fait que en tant que devenus croyants, nous puissions vraiment entièrement consacrer notre vie. Nous avons à lui consacrer entièrement notre vie. Et à cela, en tant que première chose, appartient notre cœur. Nous avons à lui donner entièrement notre corps, notre cœur. Et donc tout notre corps ensuite, et aussi, ce qui est le plus important, notre langue. Notre langue. Et je voulais vous dire pourquoi est-ce que je le dis avec un soupir, en soupirant. Il y a un frère qui me disait il n'y a pas longtemps, quand j'entends tout ce qui est dit sur moi et raconté sur moi, alors je voudrais pas seulement quitter la ville, mais je voudrais aussi quitter le pays. Cela m'a touché vraiment le cœur, m'est allé droit dans le cœur, d'une manière que je me suis posé la question, est-ce que les croyants ne se rendent pas compte eux-mêmes, n'entrent pas en jugement avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne savent pas que nous rendrons compte pour chaque parole inutile que nous aurions prononcée? Est-ce que nous sommes là pour nous rendre la vie difficile les uns entre les autres? Est-ce que nous sommes là pour parler des uns des autres? Ou bien alors, est-ce que nous sommes là pour prier les uns pour les autres, pour nous tenir les uns pour les autres, et pour vraiment, de cette manière, ensemble, consacrer notre vie à Dieu et être à son service? Je voudrais justement, sur ce sujet, lire encore plusieurs versets. Nous avons sinon toujours eu l'habitude d'avoir l'enseignement sur la parole prophétique, mais l'enseignement seulement n'aura préparé personne pour l'enlèvement. La vie qui était dans le Rédempteur doit être dans les rachetés. Et c'est seulement cette vie-là, unique, qui est le témoignage, pas nos paroles, mais en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans 1 Corinthiens, en relation avec le repas du Seigneur, il y a deux versets, ou bien même trois versets, qui nous sont représentés devant les yeux d'une manière particulière. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 28. Que chacun donc s'éprouve, verset 28, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, que chacun donc s'éprouve, s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Aujourd'hui, nous voulons le faire pour, d'une manière digne, fêter le repas du Seigneur, pour pouvoir faire l'expérience de l'effet de l'œuvre accomplie de la rédemption, pour dans notre vie faire l'expérience de la rédemption, de l'effet de l'œuvre accomplie de Dieu. Dans le verset 31, nous lisons, « Si nous nous jugions nous-mêmes, alors pas juger les autres, si nous nous jugions nous-mêmes, vous voyez, si nous nous jugions nous-mêmes, si nous entrons en jugement avec nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Alors, c'est bien. Nous voulons aujourd'hui entrer en jugement avec nous-mêmes. Nous voulons nous poser la question à nous-mêmes. Où est-ce que nous avons eu des manquements? Et nous voulons alors demander au Seigneur qu'il puisse sonder nos cœurs et nos reins et nous examiner tel que le psalmiste lui-même l'a dit. Au verset 32, il est écrit, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous sommes passés d'une année à une autre, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et nous voulons aussi lire ces deux versets. L'un dans le prophète Jérémie, au chapitre 31. Jérémie, le chapitre 31, à partir du verset 31. Pour déjà voir dans l'Ancien Testament, pour lire cela déjà dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait l'intention de faire dans la Nouvelle Alliance, pour lire déjà dans l'Ancienne Alliance ce que Dieu avait l'intention de faire dans la Nouvelle Alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Soyez attentifs, s'il vous plaît, ici, pour que vous puissiez faire la différence entre la première, donc l'ancienne alliance, et la deuxième, en tant que la nouvelle alliance. Faites attention, s'il vous plaît. Je ferai une nouvelle alliance, donc non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Dieu ne voulait même pas faire une telle alliance qui puisse être violée, qui puisse être une alliance qui peut être violée. Quoique je sois leur maître, aux traditions, quoique j'avais le droit de mettre, dit l'Éternel, de mettre sur eux. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup veulent le Seigneur en tant que sauveur, mais pas le sauveur en tant que maître, en tant que Seigneur. Et c'est en cela que est la grande difficulté, le grand problème. Il ne veut pas seulement dans notre vie être sauveur. Il veut être maître, il veut être Seigneur. Il veut pouvoir déterminer les choses, conduire, décider, diriger dans ta vie et dans ma vie. Le Seigneur était leur sauveur. Mais ils ne l'ont pas permis d'avoir droit de Seigneur, droit de maître. Mais ils se sont égarés avec leur cœur, dans leur cœur. Dieu ne voulait pas, encore une fois, refaire une telle alliance. Cette alliance, la première alliance, lui a suffi. Il voulait une nouvelle alliance. Et regardez ce qui est écrit à partir du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, et maintenant arrive, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et alors je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Plus une loi écrite sur des pierres, mais la parole de Dieu écrite dans, donc introduite dans le cœur, écrite dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'il est écrit? Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est écrit dans les psaumes, dans les proverbes. Si Dieu a notre cœur, alors il nous a entièrement. Si vraiment il a notre cœur. Et c'est ainsi que nous pouvons nous mettre à sa disposition. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est aussi écrit dans Hébreux, le chapitre 8, nous lisons à partir du verset 7. Hébreux, chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur. » Ici, l'homme de Dieu, dans le Nouveau Testament, répète la parole du prophète Jérémie, telle que nous venons de le lire. Nous ajoutons encore ces deux versets ici, qui ici aussi ont été ajoutés, c'est-à-dire le verset 12 et 13. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, nous voyons que la première alliance avait été donnée, elle a été violée, en ce que Dieu n'avait pas pu être leur maître et leur seigneur, parce que leur cœur n'était pas encore transformé, régénéré. Parce que sous les sacrifices de boucs et de veaux, ce n'était pas possible. C'était seulement un symbole montrant, annonçant à l'avance qu'un jour, le sang coulerait pour la réconciliation de tous. Et c'est comme ça que ce jour de réconciliation est venu, ce grand jour de jubilé, cette année de grâce, dans lequel Dieu, avec son peuple, a fait une nouvelle alliance. Maintenant, nous avons aussi la grâce, nous, de passer de la vieille vie à la nouvelle vie. Cela maintenant est possible, de passer de la vieille vie à la vie avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, nous avons entendu clairement que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Nous avons lu cela dans Hébreux 8 au verset 7. C'était nécessaire. La première alliance était aussi nécessaire. L'homme devait se reconnaître pécheur devant Dieu, se reconnaître en tant que quelqu'un qui n'est pas capable d'observer ce que Dieu demande de lui. Alors la première alliance était nécessaire. C'est à cause de ça que Dieu a dû le convaincre du péché, de la transgression, le convaincre de ça. Et cela a eu lieu par la loi, par la première alliance, dans la première alliance. Mais dans la seconde alliance, dans la nouvelle alliance, cela a eu lieu que toutes les transgressions en face de la loi ont été pardonnées dans la nouvelle alliance et que Dieu a accordé la réconciliation et le pardon et la grâce pour tous ceux qui sont inclus et introduits dans cette nouvelle alliance. Encore quelques versets en ce qui concerne notre consécration, notre vie donnée entièrement à notre Seigneur. Je voudrais lire quelques versets concernant cela. Tel que nous le disions, pas seulement être sauvé, pas seulement avoir reçu la rédemption, mais d'appartenir au Seigneur et de se tenir à son service. Comme il n'y a pas longtemps, nous avions lu dans Romains 12. Romains 12, dans les premiers versets, d'être de cette manière, vraiment à la disposition du Seigneur, avec ce que nous sommes et ce que nous avons. La grande difficulté, le plus grand problème, nous l'avons avec notre langue. Cela est en fait connu de tous. Les plus grandes difficultés, nous les avons avec les paroles que nous n'aurions même pas dû prononcer. Et malgré cela, nous le faisons toujours de nouveau. Dieu veut aussi, en ce qui concerne ce point, veut ôter tout ce qui dérange, tout ce qui est un obstacle. Il veut l'ôter du milieu de son peuple, du milieu du corps du Seigneur, pour que l'harmonie divine puisse être rétablie parmi son peuple et que le Seigneur puisse avoir son chemin avec nous et parmi nous. Quelque part, dans les jours à venir, cela doit devenir une réalité. Nous devons arriver dans cet état. Ça ne nous sert à rien quand nous parlons ou bien nous lisons de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, ou bien même si nous prêchons là-dessus et nous disons que voilà, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça, c'est ton témoignage? Est-ce que c'est mon témoignage? Ou bien alors, est-ce que c'était seulement le témoignage de l'apôtre Paul? Mais bien aimé, nous devons, parce que le temps est très court, parce qu'il est très sérieux. Nous devons vraiment permettre à Dieu de parler à notre cœur par sa parole. Et nous devons nous tenir devant sa parole, nous représenter cela devant les yeux, ce que le Seigneur demande de nous maintenant. Dans Jacques, l'épître de Jacques, une parole connue de tous, que nous avons souvent entendue, ce que le Seigneur demande de nous en tant que croyants. Il est écrit ici dans le chapitre 1, au verset 19. Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Écoutez, chacun peut le faire rapidement, promptement. Mais alors il est écrit d'être lent à parler et lent à se mettre en colère. Et toute une liste est faite ici, et au verset, peut-être au verset 22, tout cela est important ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Vous savez que quand on est trompé, on se sent vraiment très... C'est désagréable, on se sent mal d'être trompé. Je ne sais pas, certains sont encore très jeunes et certains sont déjà, en âge avancé. Il y en a qui sont encore jeunes et il y en a d'autres qui sont déjà avancés en âge plus mûr. Mais quand on est trompé, c'est vraiment quelque chose de grave, de mal, de désagréable. Mais quand on s'est soi-même trompé, c'est encore plus grave, c'est encore plus désagréable. Et ici, il nous est dit clairement, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Donc, nous ne trompons pas les autres. Nous nous trompons nous-mêmes si nous faisons que nous borner à écouter. Nous continuons à lire au verset 23, car... Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Quand nous sommes assis sous l'écoute de la parole de Dieu, alors, à l'endroit même où Dieu, par la prédication, nous présente, nous représente le miroir de sa parole, nous ne devons pas alors commencer à faire quelque chose d'autre, si ce n'est que de réparer ce que nous avons vu dans le miroir de la parole. Et nous avons constaté que ce n'est pas tel que ça devrait être. Si vraiment nous sommes seulement que des hommes qui dans une réunion font que se regarder dans le miroir, bon oui, ils regardent, oh c'est bien, la prédication était bien, ils prennent le miroir, ils le mettent quelque part dans le sac et ils oublient comment est-ce qu'ils étaient. Non, là où Dieu parle avec nous et nous présente devant les yeux le miracle de sa parole, c'est dans ce lieu-là qu'il veut nous aider, qu'il veut changer les circonstances, transformer les circonstances. Il veut accorder sa grâce, il veut intervenir, il veut accomplir et confirmer sa parole en toi. Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Pas seulement d'écouter, pas seulement de regarder dans la parole, mais de constater où est-ce qu'il y a des manquements encore dans notre vie et de demander au Seigneur qu'il puisse, de lui demander vraiment sincèrement, qu'il puisse intervenir et ôter ses manquements. Il est écrit ici que l'homme, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
verset 24. Et je vous demande alors, qu'est-ce que sera le résultat de cela? Tout alors est resté dans la vieille vie, dans le vieil homme, dans les vieilles choses. Nous ne venons pas ici, ayant parcouru tant de kilomètres et ayant sacrifié de l'argent et du temps, pour seulement venir et regarder et oublier tel que nous étions. Non, nous sommes ici réunis devant la face de Dieu pour écouter sa parole et pour nous soumettre à l'examen de la parole de Dieu et de nous accorder sa grâce, de lui demander de nous accorder sa grâce, de faire de nous des hommes qui mettent sa parole en pratique. Vous pourriez continuer à lire. Il est écrit au verset 26. Si quelqu'un croit servir Dieu, autre traduction, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh, particulièrement parmi les croyants. Tous pensent servir Dieu. Je n'ai jamais rencontré un croyant qui ne penserait pas servir Dieu. Ici, il est écrit, si quelqu'un croit servir Dieu, rendre un service à Dieu, servir Dieu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Le service de cet homme est vain. Est vain. C'est en vain qu'on a écouté la parole de Dieu. C'est en vain qu'on a chanté des cantiques. C'est en vain qu'on a prié. Pourquoi? Parce que on trompe son propre cœur. Le cœur est jugé, mais l'homme lui-même a encore en soi de l'orgueil et il ne veut pas admettre. C'est à cause de ça que il ne veut pas admettre qu'il est dans cet état. C'est à cause de ça que nous voulons nous soumettre sous la main puissante de notre Seigneur, notre Dieu, tel que c'est écrit dans Pierre, et lui demander: Seigneur, accorde-moi un cœur circoncis, un nouveau cœur, un nouveau esprit. Accorde-moi une langue circoncis, une langue qui est comme un disciple, tel que le prophète Ésaïe, par l'Esprit de Dieu, l'a prononcé. Accorde-moi une langue selon un disciple, pour que je puisse avoir de la sagesse, pour relever ceux qui sont affligés par mes paroles, et édifier. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous édifier les uns les autres, de nous aider, de nous exhorter, de nous encourager. Parce que les problèmes parmi le peuple de Dieu n'étaient pas aussi énormes que maintenant. Et s'il y avait un temps où les croyants avaient besoin l'un de l'autre, c'est vraiment maintenant. Besoin de l'un de l'autre et du Seigneur, c'est vraiment maintenant. Et alors que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce à tous, que nous puissions vraiment recevoir sa parole et lui dire: Seigneur, que je puisse seulement prononcer les paroles qui servent à l'édification, à ceux qui écoutent. À l'édification de ceux qui écoutent. Parfois, les croyants s'occupent de petites choses, avec des choses qui sont en arrière de 10 ans, de combien d'années, et parlent d'un autre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus idiot et insensé, de plus grave que ça? Laisse les choses passer. Ce qui était hier, c'est passé. Paul a dû aussi dire, il a pu aussi dire par la grâce de Dieu, j'oublie ce qui est derrière moi. Et j'ai devant moi le but à atteindre devant les yeux. Et je le poursuis pour que je puisse le saisir. Parce que j'ai été saisi par Christ. Nous devons arrêter de parler des autres, de la sœur, du frère. Peut-être que le frère et la sœur, hein, déjà depuis longtemps, ils ont déjà mis leur vie en ordre devant Dieu. Qui a le droit encore de parler encore de ces choses? Ou bien de faire des remarques? Dis sincèrement, les incroyants sont, en ce qui concerne ces choses, plus sages que les croyants. Ils ont une conduite meilleure que celle des croyants. Les croyants pensent parfois que tout est en ordre dans leur vie parce qu'auprès de Dieu, il y a le pardon. Oui, parce que le pardon n'est pas seulement pour toi qui parle. Le pardon est aussi là pour celui duquel tu parles. Oui ou bien non? S'il y a le pardon, alors le pardon est pour tous. Alors pourquoi alors encore parler des autres? Si les péchés ont été pardonnés, alors c'est pour tout le monde. Alors nous avons qu'à remercier le Seigneur que Dieu en Christ a pardonné toutes choses, a pardonné nos péchés. Alors nous pouvons aller de l'avant. Hein? Mais bien aimé, tel que Paul décrit dans Galates chapitre 5, au verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et ça, ce sont alors les croyants. Ce sont des paroles adressées aux croyants. Non. Je crois que Dieu peut mettre une fin à la vieille nature, à la vieille vie, va mettre une fin et doit mettre une fin, et que une nouvelle vie, une nouvelle nature soit appelée à l'existence, créée en nous par la grâce de Dieu. Le Seigneur peut que habiter dans un cœur qui est régénéré et qui est obéissant. Il peut que parler par une bouche qui ne calomnie pas, qui ne propage pas des choses sur les autres partout, mais qui dans la réalité est à la disposition de Dieu et à la disposition de sa parole et est conduit par le Saint-Esprit. Mais bien aimé, nous devons prendre les choses au sérieux. Très au sérieux. Personne ne sait à tel point le temps est mesuré, est court. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Et qu'est-ce qui se passera? Que nous passions de la terre de l'autre côté. Alors nous aurions peut-être du remords. Celui qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église, celui qui aujourd'hui met cela en pratique, se comporte, se conduit en observant ces choses et qui n'est pas en train tellement de se regarder dans le miroir, mais qui se laisse corriger par le Seigneur de tout rite, de toute tâche, de tout ce qu'on voit et qui n'appartient pas peut-être à notre vie sûrement. Que nous soyons purifiés en tant que croyants, que nous soyons purifiés et sanctifier toutes ces choses pour devenir des vases que notre Dieu peut vraiment utiliser pour son honneur. Soyez sincères. Est-ce que nous sommes terrestrement, est-ce que nous ne sommes pas reconnaissants terrestrement, comme ça, dans la vie normale, si quand quelqu'un vient et nous dit, regarde, tu as quelque chose là, tu as une tâche, tu as quelque chose, et qu'on n'est pas en train comme ça de continuer à marcher comme ça, tel que nous sommes. Ça s'est passé il y a des années passées, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a attiré l'attention sur quelque chose. Il m'a dit, regarde dans le miroir, j'avais de l'encre dans les mains et j'avais comme ça sur la joue toute une trace d'encre. Alors j'étais tellement reconnaissant à cette personne d'avoir de ce qu'il m'a attiré l'attention, il m'a fait remarquer cela. Mais bien aimé, il m'a dit de regarder dans le miroir. Mais bien aimé, quand Dieu attire notre attention sur ce qui ne va pas encore, il veut alors notre bien. Il ne veut pas nous laisser comme ça marcher comme nous marchons et que d'autres sont obligés alors de faire des remarques. Non, Dieu est un Dieu bon. Maintenant arrive quelque chose, maintenant arrive vraiment très important. Sûrement que nous en avons besoin de ça. Est-ce que, ou bien alors vous pensez que la parole de Dieu a été écrite pour que nous ayons beaucoup à lire? Non, je ne pense pas. Je pense que la parole de Dieu a été écrite parce que Dieu avait beaucoup de choses à nous dire. Et ici, il est écrit dans Jacques, le chapitre 3, à partir du verset 2, il est écrit, Jacques, chapitre 3, au verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » En bride, tout son corps en bride. Ici, il est parlé de bride. Vous savez, celui qui vient de la terre et qui vient même des domaines de paysans, des fermiers, il sait comment est-ce que, par exemple, un cheval est mis en bride et alors on a tout le cheval à sa disposition. On n'a pas besoin comme ça de le tenir par les jambes ou bien par les oreilles. Celui qui a le cheval en bride, il a tout son corps. Il le conduit, il dispose de tout le cheval. De la tête jusqu'aux jambes, tout le cheval se tient à sa disposition seulement par les rênes. Parce que le cheval est en bride. Maintenant, nous allons lire ce qui est écrit ici. Ici, ces exemples nous sont donnés au verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, alors nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Ici, des vérités puissantes nous sont exprimées. Et notre Seigneur, les prophètes et les apôtres ont toujours utilisé des exemples du domaine naturel. Hein, et ils ont transporté ces exemples-là dans le domaine spirituel et ils les ont présentés aux croyants pour que cela soit compréhensible. Ici, il est écrit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, alors, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Pour être court, l'homme de Dieu ici écrit et dit que la langue a besoin d'un bride. Et celui qui peut tenir sa langue en bride, il peut alors tenir tout son corps dans l'ordre divin dans l'église. Mais cela commence avec la langue. Et vous savez que la tête est nourrie, le cœur est trompé et la langue a son travail. Elle travaille. Alors nous voulons aujourd'hui arrêter avec ces choses et dire Seigneur, aussi certain que nous sommes passés de l'ancienne à la nouvelle alliance, ou bien maintenant nous pourrions dire d'une année à une autre, alors, ça n'a pas le droit de rester encore dans les vieilles choses. Nous devons vivre de la nouvelle vie, de la nouvelle nature. Pas des nouvelles intentions que tu te fais, mais un nouveau cœur, un nouveau esprit, une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Recevoir cela de Dieu, par la grâce de Dieu. Et c'est alors que cela aura servi à quelque chose d'être venu. Parce que nous pouvons recevoir quelque chose de divin, quelque chose qui vient de Dieu, dans notre vie, dans notre cœur. Et ainsi, nous préparer réellement et faire l'expérience de notre préparation. Et notre préparation et notre achèvement va être dépendant de cela. Et ici, il nous a parlé aussi de l'exemple avec les navires et le petit gouvernail. Un navire énorme et un petit gouvernail. Mais ce petit gouvernail détermine dans quelle direction est-ce que le navire doit aller. Ici, dans la parole de Dieu, par des exemples que chacun peut comprendre, il nous est exprimé ce que nous devons faire. Ici, il est écrit aussi, au verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Nous avons, en Israël, nous avons vu qu'il y avait eu un fanatique qui avait seulement jeté un truc de cigarette là, un petit point avait suffi, et combien d'hectares ont été embrasés. Seulement un petit point a suffi pour produire un grand dégât. Et ici, il nous est dit que la langue porte en soi un feu et que par cela toute une grande surface peut être embrasée et détruite. La langue aussi est un feu au verset 6. C'est le monde de l'iniquité.
la langue est placée parmi nos membres.
Souya
tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Pas la gêne. Mais bien aimé, en fait, il y a seulement deux sources d'inspiration. L'une vient d'en haut, l'une vient d'en bas. Et celui qui ne n'unit pas, qui rassemble pas, il disperse. Celui qui n'édifie pas, il détruit. Celui qui ne marche pas dans la lumière, il reste dans les ténèbres, il demeure dans les ténèbres. Il n'y a pas un troisième chemin, une troisième position, un troisième état. Si le prophète Élie, aujourd'hui, était ici, il aurait dit à tous, jusqu'à quand est-ce que vous voulez encore vous tenir des deux côtés? Alors, on n'est pas ici et on n'est pas ici. On n'est ni là, ni là. On n'a rien entièrement des deux côtés. Dieu nous veut entièrement. Il veut nous avoir pour lui entièrement. Aujourd'hui, pour lui entièrement. Que notre décision de nous tenir à son service soit une décision totale et finale sur laquelle il peut donner son amen. Vous savez que Dieu sonde les cœurs. Ici, il nous est dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, enflammée par la géhenne. Hein? Après, il est parlé de toutes sortes d'animaux, etc., marins, d'oiseaux, de reptiles. Hein? Toutes choses peuvent être domptées. Tous ces animaux peuvent être domptés. Mais le verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ça doit être alors un monstre. Un monstre. On peut tout dompter, on peut tout lier, n'est-ce pas? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, la lier. Est-ce que vous remarquez que nous avons besoin de l'intervention de Dieu? Ici, d'avoir des bonnes intentions, ça ne suffit pas. Ça peut être des bonnes intentions vraiment faites sincèrement de tout notre cœur. Mais aucun homme ne peut dompter sa langue. Et ici, il est écrit encore, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Si nous pouvions être conscients, quel effet ont nos paroles chez les autres, chez ceux qui écoutent autour de nous? Oh mes bien-aimés, nous nous mordrons la langue et nous nous cacherons quelque part pour prier. Nous ne ferions rien d'autre. Nous devons comprendre une fois pour toutes. Quel dégât nous faisons les uns les autres. Nous devons comprendre que nous avons été appelés à l'unité de l'esprit. Même si extérieurement, nous avons des mentalités différentes. En esprit, nous formons un corps. Le corps du Seigneur. Et la Bible nous dit, recevez-vous les uns les autres, tel que Dieu en Christ vous a reçu, vous a accepté, vous a agréé. Il n'a jamais dit à quelqu'un, tu dois d'abord devenir comme ça, tu dois d'abord devenir ainsi, et pour que je t'accepte, pour que... Non, il nous a reçus tels que nous sommes. Nous voulons aussi les uns les autres nous recevoir tels que Christ nous a reçus, tels que nous sommes. Et s'il y a quelque chose qui doit être transformé, alors nous devons demander cela à Dieu. Lui seul alors est capable de le faire. En parlant, nous faisons que aggraver la situation. J'arrive avec cela aussi à la fin de cette réunion. C'est la première réunion pour cette année de cette sorte. Oui, très bien. Oui, c'est pour vous. Mais comme cela est à voir de cette parole, Dieu a des pensées de paix pour nous. Je vous dis, tant que Dieu parle avec nous, nous avons encore trouvé grâce devant Dieu. Quand il ne parlera plus avec nous, alors qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Non. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. de ce qu'il parle encore avec nous. Il est écrit encore aussi, ici, verset 10, tu dis, frère Rousse, de la même bouche sorte la bénédiction. Oui, mais comment? Comment est-ce que cela est possible? Et la malédiction? De la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Ou alors, nous sommes l'un ou bien nous sommes l'autre. Et il est écrit encore, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, que ce soit ainsi. Et que nous pouvons dire ici, sœurs, bien sûr, il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Cela doit devenir différent. Cela doit changer. Dieu veut donner un changement. S'il est écrit ici, qu'il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors ça veut dire que cela ne doit pas être, parce que Dieu ne le permet pas. Dieu ne nous laissera pas comme ça continuer à le faire. Nous devons comprendre ces choses aujourd'hui. Et alors, nous n'allons pas seulement être passés d'une année à une autre, mais nous allons aussi passer de la vieille vie à la nouvelle vie. Et ainsi, donner au Seigneur la première place, lui permettre d'être notre maître, notre Seigneur, celui qui nous dirige, qui nous conduit, pour qu'il ait la première place dans notre vie réellement, en toutes choses. Nous voulons encore lire ici au verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers, des olives, ou une vigne, des figues? De l'eau sale, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous devons recevoir ça comme venant de la main de Dieu. Je ressens le sérieux du temps, le sérieux de l'heure. Et vous savez exactement, je ne suis pas un prédicateur de morale. Ça, vous le savez tous. Je n'ai jamais fait la morale. J'ai seulement prêché la parole de Dieu telle qu'elle était écrite. Mais si maintenant Dieu met le doigt sur cela et nous dit que nous devons vraiment, en ce qui concerne notre langue et notre bouche, que nous devons entièrement nous mettre à son service, être placés à son service, alors cela a une grande importance. Il a le droit de le faire et cela est justifié devant lui. Il a le droit de le faire et cela est justifié devant lui. Encore quelque chose, parce que la plupart de ceux qui utilisent leur bouche et leur langue se pensent sages. Ils savent toujours, bien sûr, tout mieux que les autres. Et il y en a qui disent, « Oh, si tu savais, si tu savais tout, si tu savais, oh, si tu savais. » Je ne veux même pas savoir tout. Hein? Toi, dis-moi tout sur toi. Hein? Si je savais tout sur toi, alors qu'est-ce qui se passerait? Ouais, il y a des gens d'apparence pieuse. Ils ne sont pas seulement idiots, mais ils sont complètement à côté de la chose. Et ils ne le remarquent même pas et ils pensent, eux, d'être particulièrement sages. Et écoutez ce que les Saintes Écritures nous disent sur une telle sagesse. Ici, dans les versets suivants, nous lisons à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors, il y a une prétention qu'on a qui n'a rien à voir avec la réalité qu'on vit. Qui n'a rien à voir. Et Dieu veut que les deux choses soient en harmonie, soient vraies, soient en accord. Que notre témoignage
et notre vie soient en harmonie, que notre vie et notre témoignage soient en harmonie, que les deux soient vraiment en accord. Au verset 15, il est écrit, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, donc cette sagesse qui est prétendue, n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Des paroles dures, adressées à des croyants. Hein? Il est écrit ici encore, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » De mauvaises actions. Alors, dès que nous l'avons chanté, tout est nouveau. Pas seulement de nouvelles intentions, mais une nouvelle vie. Être né de Dieu, né d'en haut par l'Esprit de Dieu. Je voudrais encore lire cette parole dans l'Épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, ce verset merveilleux parlant de la réconciliation de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ici est écrit ce mot « si ». Vous savez ce que ça veut dire « si ». « Si », c'est toujours utilisé dans la vie. « Si, 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 si ». Les deux mots. « Si » ou bien « mais ». Mais ici, il est écrit « si ». « Si quelqu'un est en Christ ». Alors, il est une nouvelle création. Alors, il est. Parlons, il est. Alors, il va devenir. Non, alors il est une nouvelle création. Alors, il est écrit, les choses anciennes sont passées. Si nous voulions encore utiliser des termes dans le temps, vous savez, tout le monde sait que l'année 97 est passée. C'est derrière nous. Aucun jour de cette année va revenir. Aucun jour, aucune heure, aucune minute va revenir de cette année. C'est passé pour toujours, c'est le passé. L'année 97 est passée, c'est pour toujours. Alors si ici il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Là où toutes choses sont devenues nouvelles, là où quelque chose est devenu nouveau, il faut que les choses anciennes soient passées. C'est nécessaire. Telle que la première alliance, l'ancienne alliance, en tant que la première alliance, n'a rien amené à la perfection. Et qu'elle n'était pas sans défaut. Et qu'une nouvelle alliance avait été faite par le sang de l'agneau de Dieu. C'est ainsi que nous avons reçu cela représenté devant les yeux, que en Christ, nous avons la possibilité de devenir une nouvelle création, ou bien alors nous sommes déjà devenus une nouvelle création, si nous sommes en lui, et que les choses anciennes peuvent être passées, ou bien alors sont déjà passées. Dieu, vous voyez, invite encore. Il ne veut même pas que nous soyons déjà tous là où nous pensons être, mais il veut réellement nous apporter dans cet état. Ce que je veux dire ici est la chose suivante. Dieu met de l'ordre parmi son peuple. Et en ce qui concerne ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur, qui ne sont pas encore devenus une nouvelle création, en qui les choses anciennes ne sont pas encore passées, il les invite tous. Ils ne sont pas rejetés, non. Ils sont inclus aussi. Tous, ils sont invités. Que nous puissions aujourd'hui vraiment prendre cela comme une directive du Seigneur. Et pensons à cette expression dans la béatitude, dans la prédication sur la montagne, dans Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Aux traductions, d'abord. Faites-le d'abord. Que nous puissions recevoir cela vraiment comme une règle d'or et mettre cela en pratique, rapporter cela à notre vie. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, cela ne le fait à personne d'autre. Garde ta langue en bride, avale tes paroles. Ne détruis pas, ne produis pas de dégâts autour de toi. Ne détruis pas. Ne laisse pas le feu de la gêne embraser autour de toi. Mais que cela ait lieu comme le jour de la Pentecôte. Que le feu de Dieu puisse descendre du haut des cieux. Et que ainsi puisse accomplir ce que notre Seigneur a dit. Et que Jean-Baptiste lui-même l'a rendu témoignage de lui. Il est celui qui baptise d'esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, ce ne sont pas des yeux, ou bien des oreilles de feu, ou bien des pieds, ou bien des mains de feu qui sont apparues, qui leur ont apparu, mais des langues de feu leur apparurent. Et pour que les langues qui étaient embrasées du feu de la gêne soient consumé par le feu du Saint-Esprit pour que les langues soient purifiées et sanctifiées, pour que la langue des croyants soit placée dans le service de Dieu et que ainsi nous puissions annoncer et propager les œuvres merveilleuses de Dieu. Ça, c'est la prédication du message du salut de l'Église du Nouveau Testament. C'est ainsi que nous pouvons encore aujourd'hui faire l'expérience avec Dieu. Et nous faisons bien si nous nous soumettons au jugement de la parole de Dieu et en relation avec 1 Corinthiens, le chapitre 11, où il est parlé du repas du Seigneur, que vraiment nous puissions nous éprouver, donc entrer en jugement avec nous-mêmes et tous venir devant le Seigneur. Et lui donner un vœu saint, lui faire un vœu saint, que vraiment à partir de maintenant, nous nous mettrons à sa disposition réellement et que nous allons prier les uns pour les autres et que nous lui demanderons parmi nous d'être tel qu'il était parmi les premiers chrétiens au commencement, où il y avait une harmonie totale et divine parmi les croyants, les uns et les autres. C'est seulement plus tard que tout a changé, mais complètement, au commencement. Je ne parle pas de ce qui s'est passé 30 ans après. Je ne parle pas de ce qui s'est passé 20 ans après. Je parle maintenant de ce qui s'est passé dans le commencement direct, alors que Dieu avait fondé l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Et qu'il y avait eu un laps de temps court. C'est là où Dieu vraiment se sentait bien parmi son peuple. Tel que ça a commencé. C'est comme ça que, et c'est comme ça que ça va prendre fin. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et tel que nous avons lu, que ce membre qu'on ne peut dompter est dans notre bouche. C'est à cause de ce que les Écritures nous disent. Peut-être que je devrais encore le dire rapidement. Cette parole, c'est écrit dans Matthieu, que tu seras jugé par tes paroles et par tes paroles, tu seras justifié. Pas par les paroles des autres, mais les paroles que toi, tu as prononcées sur une autre personne vont retomber sur ta tête. Et c'est par ces paroles que tu seras jugé. C'est ainsi que c'est, selon la parole de Dieu. Je le lis, et alors nous pourrons sûrement fêter le repas du Seigneur, pas dans le vieux levain de méchanceté, mais tel que Paul l'écrit, dans une nouvelle pâte de vérité et de pureté, d'une manière que nous pourrions dire, Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux. Permets-moi de prendre vraiment un bain dans ta parole. Purifie-moi et corrige-moi, censure-moi. Je ne sais pas si c'est le verset que j'ai choisi, que j'ai cherché, mais mes yeux tombent sur Matthieu 12, à partir du verset 33. Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Comment est-ce que cela est vrai? À tel point est-ce que cela est vrai? Quand nous regardons dans la nature, qui sait où se trouve un cerisier ou bien un oranger? Qui sait? C'est pas possible autrement. C'est le fruit qui montre, qui révèle l'arbre. Le fruit, ce n'est pas les feuilles. Ce n'est pas les feuilles qui nous disent que cet arbre est un oranger. Non, ce sont les fruits qui rendent témoignage de la vie qui est dans l'arbre. Et mes bien-aimés, ici, il y a un exemple du frère Branham qui nous a été donné. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons amené assez de temps. Je n'ai même pas regardé ma montre jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas besoin aussi de le faire. Il y a frère Branham qui le dit à l'un de ses amis. Il y a un de ses amis qui, en Californie, l'avait amené dans une plantation de fruits. Il y avait, je crois que c'était un arbre, c'était un oranger. Et sur cet oranger, il y avait des pamplemousses, il y avait des citrons, il y avait toutes sortes de fruits. Et frère Branham était étonné. Il a dit, mais je n'ai jamais vu une telle chose de toute ma vie. Et il a dit, mais écoute, qu'est-ce que c'est ça ici? Qu'est-ce que c'est ça pour une sorte d'arbre? Il a dit, mais c'est un arbre. C'est un oranger. Il a dit, mais qu'est-ce que font tous ces autres fruits sur cet arbre, sur cet oranger? Il a dit, mais ils ont été greffés. Ils ont été greffés. Et ils se nourrissent de la même vie de l'arbre. En fait, ils rendent un mauvais témoignage de l'arbre duquel ils se nourrissent, de la vie. Et frère Branham, alors, a dit, oh, quel rejeton, si cet arbre est semé, si la semence est semée, et qu'est-ce qu'il produira? Il dit, mais il produira un oranger. Il produira des rejetons d'orange. Et ça, c'est le mystère, mes bien-aimés. Nous devons vraiment venir aux choses et nous présenter devant la parole de Dieu et dire, Seigneur, si alors l'arbre est reconnu par le fruit, pas par les feuilles ou par autre chose, c'est les fruits qui font que l'arbre est reconnu. Alors, quel fruit est reconnu à ma vie? Quel témoignage rend ma vie? Peut-être le dernier verset, parce que le verset 34 est trop dur, je crois qu'il ne concerne personne ici. Mais nous lisons la fin du verset 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, l'homme, verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et maintenant arrive le verset. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dieu
Dieu est juste. Il ne va pas juger selon ce que les autres ont raconté. Non. Il ne va pas juger selon cela. Mais c'est selon tes paroles, par tes paroles, par les paroles d'un autre. Mais c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Oui. Mais bien-aimés, nous avons aujourd'hui le repas du Seigneur et vous savez que le chemin d'un homme, son propre chemin, prend fin à la croix. Et c'est de la croix que le chemin vivant inauguré, le chemin vivant avec Jésus-Christ crucifié, commence. Et avec lui, le crucifié, notre vieille vie a pris fin, tel que Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. » Alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Alors, ce n'est pas lui, mais c'est Christ en lui. La parole doit devenir chair dans les croyants. Pas seulement dans le Rédempteur, mais aussi dans les rachetés. Et nous vivons encore dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons tous, pour la première ou bien pour la deuxième ou bien pour la centième fois, nous pouvons encore faire une expérience avec Dieu. Le prendre à sa parole et lui dire, Seigneur, je voudrais fêter d'une manière digne le repas avec toi. Purifie-moi, pardonne-moi tout. Et s'il y a quelque chose à réparer, que tu puisses vraiment intervenir. Nous ne voulons pas remettre à demain cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui est réparable, alors promettez au Seigneur que vous allez réparer cela. Et que alors ainsi, vous allez l'honorer et recevoir ce qu'il a accompli pour vous sur la croix du Calvaire à Golgotha. Tel que Jacques l'a écrit, que nous branchons, et que celui qui ne branche pas est un homme parfait, celui qui ne branche pas avec ses paroles, mais un tel homme, on doit le chercher, vraiment. Moi aussi, je ne le suis pas. Et tous, nous ne le sommes pas. Il y en a un seul qui est parfait, c'est notre Dieu. Et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il parle avec nous. Et il veut nous amener avec en accord et en harmonie, en coordination avec lui et avec sa parole. Il veut nous accorder avec lui et avec sa parole. Aujourd'hui, nous allons d'une manière digne fêter le repas avec lui. Et avant que nous puissions prendre le pain et le vin, nous allons ensemble venir devant lui dans la prière et dans la foi, lui demander, Seigneur, que tu puisses renouveler, que tu puisses rendre toutes choses nouvelles en moi, que en moi toutes les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient devenues nouvelles. La réconciliation, le pardon, le salut, le plein pardon, la grâce et encore plus. Que nous puissions être placés dans le service de Dieu et nous tenir à la disposition du Seigneur. Il veut de telles personnes. Il veut faire de nous de telles personnes. Qui marche dans ses voies. Des gens, en tant que son peuple, sur lesquels, et dans lesquels, ou bien parmi lesquels, il peut rendre son témoignage, se manifester. Que le Seigneur puisse, en chacun de nous, bénir sa sainte et précieuse parole. Elle ne revient pas vide à lui. Elle produit l'effet pour laquelle il l'a envoyé, c'est-à-dire, dans ta vie et dans ma vie, je vous le dis courtement, bientôt, je pense que nous aurons une autre relation avec notre Seigneur, avec notre Dieu, et les uns avec les autres. L'amour de Dieu va grandir en nous, l'unité de l'esprit sera plus ferme, et le lien de la paix entre nous. Et cela aura servi à quelque chose d'écouter sa parole et de l'avoir mis en pratique et d'avoir été béni par Dieu. Amen. Amen.